Ce que fait Definov, de notre point de vue à nous, c'est qu'il fait catalyseur. Parce que, il nous permet, un, il provoque la rencontre, ce qui est en soi déjà beaucoup. Deux, il met sur la table des capacités financières, parce que faut, bien sûr, on a tous envie de mener des projets juste par grandeur d'âme et générosité, et sans avoir besoin de lever des fonds, etc., etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est tous sur plein de projets en même temps. Nous, on est une école, on doit la faire tourner. Et donc, c'est vrai qu'en levant Definov, en levant le frein financier, parce qu'il donne la capacité financière à mener ce projet, il a un impact énorme.
Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACTE. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACTE pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion.
Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F Hauts-de-France. Nous vous invitons aujourd'hui à découvrir un projet remarquable qui témoigne des liens qui unissent les tiers-lieux et les organismes de formation. Vous venez d'entendre David Eloy, directeur de l'école EMI, l'école des métiers de l'information, qui est membre d'un consortium bénéficiaire d'un projet en Île-de-France, le projet Definov tiers-lieux. Par-delà le projet, c'est tout un plan national, une ambition, qui vise à soutenir le rapprochement entre le monde des tiers-lieux et le secteur de la formation. Dans ce nouvel épisode spécial, vous pourrez entendre les acteurs d'un projet intitulé JOSE, porté en particulier par le tiers-lieu, la maison de la conversation, mais aussi par l'organisme de formation EMI, École des métiers de l'information. Peut-être pouvons-nous commencer en vous précisant ce qu'est un tiers-lieu. Et pour cela, nous accueillons Séverine Giray, responsable formation de la Compagnie des tiers-lieux en Hauts-de-France.
Bonjour, donc je suis Séverine Giray et je suis en charge des questions liées à la formation professionnelle pour la compagnie des tiers-lieux. Donc pour répondre à la question, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Donc les tiers-lieux, ce sont des lieux d'accueil, des lieux de développement de projets locaux. On y trouve des communautés parce que ce sont des lieux de rencontre, d'échange, de partage, des lieux de connexion. Et en tout cas, un format plutôt idéal, des lieux qui sont investis par les habitants du territoire. Donc, des projets plutôt ancrés localement et centrés sur les besoins des usagers. Donc, ça peut être aussi des lieux de formation. Certains lieux, par exemple, peuvent être engagés sur des sujets d'inclusion numérique, sur des sujets plutôt des questions liées à l'alimentation. Ça dépend vraiment du projet. Ils sont imprégnés, en tout cas, d'une culture du faire ensemble et impulsent des dynamiques locales autour de projets.
Definov tiers-lieu se décline dans chaque région de France. En Hauts-de-France, l'appel à projet Connaissance Hauts-de-France a été lancé en février par le Conseil régional. C'est toujours en compagnie de Séverine Giray que nous découvrons le rôle et l'action de la Compagnie des tiers-lieux dans la région.
Donc la compagnie a contribué à participer aux éléments qui ont fait partie de la rédaction du cahier des charges de l'appel à projet. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est surtout de vous mettre en réseau, en tout cas de mettre en réseau les organismes de formation avec les tiers-lieux de la région. Donc, on a aussi sur notre site une cartographie. Mais l'idée, c'est aussi de se positionner comme un acteur qui va favoriser la rencontre entre les tiers-lieux de la région et les organismes de formation ou les autres acteurs qui cherchent aussi à entrer en contact avec des lieux pour développer des projets ensemble.
Pour celles et ceux qui sont déjà piqués de curiosité par l'initiative en question, Séverine Giray nous indique finalement où trouver la compagnie dans la région.
Oui, alors la compagnie des tiers-lieux est implantée à Lille, mais agit sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France. Et on a à l'échelle de la région des cercles territoriaux, en fonction des zones géographiques, des référents qui peuvent aussi, des repères pour vous, pour entrer en contact avec des tiers-lieux de la région en fonction des zones, que ce soit la Côte d'Opale, par exemple, ou le sud de la Picardie. Enfin, voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez des tiers-lieux comme des acteurs de votre collectif.
Vous l'avez entendu, le projet est récent en Hauts-de-France, mais nous pouvons compter sur un exemple de rapprochement entre tiers-lieux et organismes de formation qui se déploie en Île-de-France. Pour en parler, nous nous sommes entretenus avec Xavier Cazard, fondateur de la Maison de la Conversation, bénéficiaire de Définov.
Aujourd'hui, J'ose, c'est un projet un peu différent, mais dont l'essence même est de donner la parole à des personnes qui l'ont peu, des jeunes des quartiers, à un moment très particulier qui sont les Jeux Olympiques, où ils vont être encore moins visibles. Et on leur a proposé, on leur propose d'une part de raconter les JO à la hauteur de leur quartier. Donc c'est un point de vue et un angle complètement différent, sur un média digital qu'il va falloir concevoir, et avec une logique qui est de dire, en fait, vous avez plein de compétences qui sont des compétences invisibles, ben grâce à ce média, qui est associé à une école de journalisme qui s'appelle l'EMI-CFE, vous allez pouvoir avoir un diplôme, des qualifications et des personnes, des journalistes qui vont vous apprendre à produire des contenus avec des outils que vous connaissez déjà, qui sont votre téléphone, qui sont un PC, etc., dans une culture qui est la vôtre aussi, qui est celle du digital.
C'est sous la forme d'un consortium que les partenaires se présentent au sein de Définov. Florence Fourmentreau, bénévole au sein de l'école de la conversation, en charge du développement de l'innovation sociale et actrice de l'appel à projet, nous en précise les objectifs et enjeux.
Donc, la Maison de la Conversation est un tiers-lieu et nous sommes donc rapprochés de l'EMI, qui est représenté par David aujourd'hui et qui, lui, est un organisme de formation qui est dans le domaine journalistique. En fait, il le présentera mieux que moi parce que ça avait du sens par rapport à notre projet, à notre mission, à notre raison d'être au sein de la Maison de la Conversation. Dans Définov, notre projet porte sur la montée en compétences des populations jeunes résidant dans les quartiers prioritaires politiques de la ville du nord de la région parisienne, ou plus précisément Paris. Le 18e arrondissement est un arrondissement qui présente 7 quartiers prioritaires. La Maison de la Conversation est basée au sein d'un de ces quartiers et, comme vous le savez sans doute, les populations jeunes de ces quartiers ont des difficultés d'intégration du milieu professionnel, souvent des niveaux d'éducation qui sont infrabac. Donc le projet était orienté sur la montée en compétences et surtout de recréer l'engagement autour de la formation de ces populations jeunes grâce au sport et des événements majeurs qui vont se dérouler en France et en Île-de-France en particulier, que sont à horizon de 2023 la Coupe du monde de rugby et à horizon de 2024 les Jeux olympiques et paralympiques. Pour répondre à cet appel à projet, il fallait effectivement constituer un consortium à minima constitué d'un tiers-lieu et d'un organisme de formation. Dans notre cadre, on a l'organisme de formation, l'EMI, dont j'ai parlé tout à l'heure, et également deux autres partenaires. Un partenaire qui est une agence de communication qui s'appelle Entrecom et un autre partenaire qui s'appelle Positive Planète, qui est l'association montée par Atali, qui a pour objectif d'accompagner les populations des quartiers, notamment vers l'entrepreneuriat.
En ouverture de ce podcast, vous avez entendu David Eloy, directeur de l'organisme de formation EMI. Retrouvons-le pour évoquer le rôle de son organisme au sein du consortium et sur les plus-values qui se trouvent à y appartenir.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, je m'appelle David Eloy, je suis directeur de l'École des métiers de la formation, l'EMI. L'École des métiers de la formation, comme son nom l'indique, est un organisme de formation qui vient de fêter ses 40 ans. On commence à être une vieille maison. Notre cœur de métier, c'est la reconversion des personnes dans les métiers du journalisme, de l'édition et de la communication. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec des personnes qui vont vouloir se lancer dans le monde du journalisme, mais souvent, j'ai envie de dire, les personnes viennent à l'école. C'est rarement l'école qui va aux personnes. Et en fait, avec le projet que nous a proposé la Maison de la Conversation, c'est un peu ça qui va se passer. C'est que nous, travailler avec un tiers-lieu, c'est une façon d'ouvrir notre école sur un territoire, de rencontrer des nouveaux publics qui ne viendraient pas spontanément à l'école, parce que le métier de journaliste, parfois, ça impressionne. Et pour avoir mené, on mène aussi des projets dans les quartiers politiques de la ville. Les personnes sont souvent impressionnées, se disent « Oh là là, mais je ne peux pas être journaliste, ce n'est pas pour moi ». En fait, si, dès lors qu'on est formé, on peut être journaliste. Donc le projet qui est proposé là, c'est une façon pour nous de nous ouvrir, d'aller à la rencontre des habitants des quartiers politiques de la ville et de leur donner la possibilité d'acquérir des compétences pour pouvoir exercer. Alors, Le projet ne prétend pas former des journalistes aguerris, parce que c'est un projet, il a sa durée, il a ses contraintes, mais il va transférer à ces personnes des compétences pour qu'elles commencent à être de vrais journalistes.
Nous ne pouvions pas ne pas poser la même question à propos des plus-values à Florence Formentreau.
Il était dans notre cas absolument inenvisageable d'accompagner des jeunes sur de la montée en compétences sans que derrière ils puissent ressortir avec quelque chose qui ait une valeur. Donc là, effectivement, l'EMI en tant qu'organisme de formation a des titres qui sont reconnus et ce partenariat va nous permettre de proposer donc aux jeunes de sortir avec des blocs de compétences, qu'on appelle des blocs de compétences, qui sont reconnus et qui donc ont une valeur sur le marché de l'emploi.
Retrouvons David Eloy pour évoquer le rôle effectif de l'organisme de formation au sein du projet.
Il va y avoir tout un travail de sensibilisation, mobilisation d'habitants, alors du 18e arrondissement de Paris, mais un peu au-delà, ces 48 heures du média qui vont permettre quelque part d'identifier aussi des personnes qui seraient intéressées à rejoindre les groupes qui ensuite vont être formés et vont produire des contenus journalistiques à partir de la rentrée de septembre 2023. Donc nous, ce qu'on va faire dans le cadre de ce projet, mais on ne le fera pas seul, c'est d'amener toute notre expérience, notre savoir-faire en matière d'ingénierie pédagogique. Après, à l'intérieur, concrètement, ça va se travailler avec la Maison de la Conversation, avec Positive Planète, avec tous les partenaires, parce que l'idée, ce n'est pas juste d'arriver en disant « nous, on sait faire de la formation, c'est comme ça que ça se passe ». Nous, on est tributaires, comme l'a dit Florence, d'un ce qu'on appelle un titre, dans le langage courant, c'est un diplôme, hein, un diplôme reconnu par l'État. Donc, on doit faire attention à ce qu'on en fait, mais on va discuter avec les partenaires pour que ça corresponde au mieux à ce qui sera profitable pour les jeunes. Et effectivement, à la fin, je pense que c'est aussi une des forces de ce projet, c'est que les personnes qui auront participé sortiront avec ce qu'on appelle un certificat de compétence qui reconnaîtra formellement, c'est un diplôme reconnu par l'État, qui reconnaîtra qu'ils ont acquis les compétences qu'on leur a transmises. Et effectivement, ça ne fait pas un diplôme de journalisme au sens plein et entier du terme, parce que on ne forme pas au journalisme en 60 jours, ce n'est pas vrai. Mais par contre, ça fait une base solide pour ensuite pouvoir continuer à pratiquer le journalisme et qui sait peut-être aller plus loin après.
Le projet consiste dans la constitution d'un média-école. Comme vous l'avez entendu, c'est David Eloy qui nous en présente les prémices.
On en est au tout début de la construction de cette étape-là, parce que faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs, c'est jamais très efficace. Mais on a quand même commencé à réfléchir, hein. Et c'est cette idée de média-école, en fait. C'est l'idée de dire, je vais faire une image, un parallèle. C'est comme quand on va dans un atelier de théâtre. Il y a deux façons. Soit on prend des cours et puis on reste dans les cours et il se passe rien que les cours qu'on a pris. Soit à la fin de l'année, il y a un spectacle à donner. Bon, et ben là, c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on va les former, ils vont produire, et cette production, elle ne va pas rester entre eux, elle va être diffusée, tout simplement, dans un média-école qui sera un média en ligne, donc accessible à tous ceux qui souhaiteront y avoir accès, à tous ceux à qui on donnera la connaissance que ce média existe. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent diffuser leur production et que, évidemment, sur les médias en ligne, il y a toujours le courrier des lecteurs sur les médias papier, hein, mais bon, on va dire sur les médias en ligne, les réactions sont souvent immédiates, surtout que la diffusion se fera via les réseaux sociaux. Donc il y aura un retour immédiat de ce qu'ils ont produit par la communauté des lecteurs. Même si lecteurs, ça fait un peu presse écrite, mais le public pourra leur faire des retours et on pourra ajuster effectivement. C'est un média qui va être vivant, en fait, parce qu'ils vont produire. Ça va être mis en ligne, les gens vont réagir et nous-mêmes, on va ajuster au fur et à mesure de la formation et de la production du média-école ce qu'on va pouvoir faire.
Il faut désormais au consortium mobiliser les jeunes, leur faire connaître le projet, faire en sorte qu'ils se portent candidats. Florence Formentreau nous apporte son témoignage quant aux mobilisations qui sont à l'œuvre pour faire de ce projet une réussite.
Pour la mobilisation des jeunes, on va s'appuyer d'une part sur les événements concrets sur 48 heures. Déjà pour leur montrer, ça leur permet également à eux de tester le modèle et de voir si c'est quelque chose pour lequel ils auraient une appétence ou une envie de formation ultérieure. On s'associe également avec des associations et des structures qui sont implantées localement. On en a une dans le consortium qui s'appelle Esprit d'Ébène, voilà, qui est très implantée dans le 18e où il y a de très fortes communautés afrodescendantes. Et on a également, dans le cadre de l'événement qui va arriver au mois de mars, une association qui s'appelle Bias Media, qui a créé un journal en direction des afro-descendants en ligne et qui est également très implanté dans le 18e. On a également, la semaine prochaine, un photographe du 18e qui fait des vidéos également. Donc, On compte aussi sur la renommée, la personnalité de ces personnes pour nous, au travers de l'influence qu'ils ont sur les réseaux sociaux pour mobiliser leur communauté. Et puis après, il y a aussi toutes les associations, les structures parapubliques de terrain, que sont les missions sociales, les centres de réinsertion, Positive Planète, qui également est un acteur majeur sur le territoire parisien, francilien et du 18e, pour mobiliser.
Des propos que complète David Eloi pour l'École des métiers de l'information.
Peut-être pour compléter ce que dit Florence, c'est vrai qu'on a un enjeu de fédérer autour de ce projet un grand nombre de personnes très diverses. On a un enjeu aussi, on est sur un public, alors sur la formation plus précisément, on a un enjeu autour du public jeune. On s'est donné comme point de vigilance de cibler quand même, d'essayer que ce ne soient pas toujours les mêmes qui ont accès à ce genre de projet, à ce genre de formation, parce qu'on sait bien que quand on crée des projets un peu attractifs, c'est toujours les mêmes catégories de population qui ont la formation que ce projet va exister, le sentiment de légitimité de pouvoir y participer et qui donc vont foncer et occuper l'espace. Là, il y a un enjeu aussi de s'ouvrir, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et de faciliter la participation de personnes au profil, j'ai envie de dire, un peu moins classique, et notamment des personnes, Florence l'a évoqué tout à l'heure, qui n'auraient pas le bac, par exemple. Donc, l'entrée dans la formation, pour le dire autrement et de manière plus concrète, elle n'est pas conditionnée à un niveau d'études, loin de là. Elle n'est pas conditionnée à des diplômes, elle n'est pas conditionnée. On va évidemment vérifier quelques prérequis. Les personnes vont devoir écrire un tout petit peu, vont devoir filmer, donc faut pas qu'elles aient de main gauche, j'ai envie de dire. Mais ça, normalement, ça se vérifie assez vite. Et ensuite, bah, surtout tester leur motivation, parce qu'une formation de 60 jours, même si ce n'est pas en continu, c'est exigeant, parce qu'on va leur demander de retourner en classe, ce qui n'est pas toujours évident, même si on le fera à dose modérée, mais on va leur demander d'apprendre, de mettre en pratique, de produire. Tout ça, ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, et c'est surtout ça qu'on va essayer de vérifier, c'est si les personnes qui arrivent chez nous, donc dans ce petit groupe de 15 de fois, elles sont en capacité de suivre la formation. Nous, c'est ce qu'on fait déjà dans notre école, on ne met pas des critères de diplôme ou quoi qu'est-ce. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir les personnes, comment elles arrivent, ce qu'elles ont en bagage dans leur expérience et dans leur pratique, et à partir de là, si on estime qu'elles ont le minimum requis, on les embarque dans l'aventure.
Bien sûr, nous n'avons pas manqué de demander à David Eloi et Florence Fourmentroux ce qu'aurait été leur projet sans le soutien de Definov.
Alors, on n'est pas tiers-lieu, mais notre école, c'est une coopérative. Donc, on est un acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est très attentif à ce qui se passe dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Les tiers-lieux font partie de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que nous, on est toujours à la recherche de partenariats, d'opportunités de collaborer avec des structures, parce que ça fait partie de notre histoire et de ce qui nous met en mouvement. Ce que fait Definov, de notre point de vue à nous, c'est qu'il fait catalyseur, parce qu'il nous permet, un, il provoque la rencontre, qui est en soi déjà beaucoup. Deux, il met sur la table des capacités financières, parce que bien sûr, on a tous envie de mener des projets juste par grandeur d'âme et générosité et sans avoir besoin de lever des fonds, etc. etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est tous sur plein de projets en même temps. Nous, on est une école, on doit la faire tourner. Et donc, c'est vrai qu'en levant Definov, en levant le frein financier, parce qu'il donne la capacité financière à mener ce projet, il a un impact énorme.
De notre côté, la Maison de la Conversation, de toute façon, c'est déjà un espace ouvert, c'est ce que je vous expliquais. C'est qu'on a des associations qui sont à résidence. Certaines des structures qu'on a à résidence sont elles-mêmes porteuses d'un organisme de formation. Pas forcément aussi structuré que celui de David, mais il y a déjà des organismes de formation qui sont en résidence chez nous. Là, effectivement, le projet Definov et le financement qui va y être associé, comme le signifiait David, est un énorme coup d'accélérateur qui va être donné à notre projet, qui va pouvoir avoir des ressources qui vont être dédiées, qui va pouvoir avoir aussi une communication qui va lui être dédiée, que ne pourrait pas porter la Maison de la Conversation sans cet appel à projet, c'est évident.
Terminons ces échanges avec le porteur du projet, l'École de la Conversation, et donc une de ses représentantes, Florence Fourmentroux, pour évoquer l'avenir de ce même projet.
Il a vocation à durer 18 mois dans sa phase expérimentale pour pouvoir aller jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et après passer, on l'espère, dans une échelle un peu plus grande d'incubation et de développement, voire d'essaimage, puisqu'on a pas mal de contacts avec d'autres tiers-lieux en Île-de-France qui seraient intéressés pour pouvoir déployer des projets similaires.
Ce podcast touche désormais à sa fin. Nous tenons à remercier chaleureusement nos témoins, Xavier Cazard, Séverine Gillet, Florence Fourmentroux et David Eloy. Nous remercions nos auditeurs pour leur écoute et leur fidélité. Vous retrouverez cet épisode sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Encore merci et à bientôt.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.